Agora Côte d'Azur présente Les copains d'abord.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission des copains d'abord sur Agora Côte d'Azur, votre émission mensuelle dédiée à la bonne humeur. On est tous super contents de vous retrouver pour un second volet de la saison, l'occasion de passer tous ensemble une petite heure de positive attitude.
Un volet entrouvert. Hein.
Avec au menu des sourires et des rires en palette de 12. En gros, on vous promet de ne pas faire de voyage pour rien. Il est temps pour moi de saluer Nancy, notre réalisatrice qui est derrière sa console, qui nous fait un petit coucou Nancy. Et les copains qui m'accompagnent dans cette douce folie. On commence tout de suite par Carole. Bonsoir Carole.
Salut tout le monde. Et bien ce soir, nous allons parler des insolites qui sera préparé par chacun d'entre nous. Donc vous, ça va être pas trop mal. Et moi, super drôle.
Comme d'habitude.
Modestie.
Voilà, c'est le problème de s'avancer, c'est bien, il faut vraiment confirmer l'essai. Hein. Salut Léa, comment tu vas ?
Salut, ça va, un petit peu mal à la tête, mais ça va, on va faire une bonne émission. Ce soir, je vous parle. c'est en thème avec mon état hein, de la mort, des cercueils et de la Toussaint. Donc,
c'est une bien belle émission que.
Ce soir. Ce sera un quiz, donc ce sera très intéressant. Et puis, il y aura une petite insolite. Et pour l'insolite, je vous emmène en Belgique.
Eh bien, très bien. Et bien, à tout à l'heure.
On va manger des frites.
Allez.
Bonsoir, mon Davidou.
Bonsoir à vous tous. Yes, it's good to be the king.
J'aime beaucoup quand tu poses carrément ton micro sous le menton.
J'ai mis sous.
Voilà, ça lui sert d'accoudoir. Je ne comprends pas tout ce soir.
Ça permet de tenir.
Mais pourquoi pas.
De tenir le coup. Voilà, ce soir, je vais vous parler de Louis XVI et de la Révolution française.
Ça va découper, Ça va découper.
Et j'ai chanté parce qu'il y aura quelques petits moments musicaux. Chanter.
Eh ben, on a hâte de découvrir tout ça. Alors, du coup, avant de retrouver notre David et son voyage au bout des mots, place à Stéphane Escher avec une chanson qu'on aime particulièrement ici. On écoute donc Le plus léger au monde. A tout de suite les amis, on se retrouve juste après.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
D'un fleuve, je suis né. Depuis, je flotte avec le flux. Dans cette vie qui veut de moi, peu importe ce que je suis. Et donc, j'existe et je respire. Et je me dis que ce n'est pas un mauvais départ. Puis j'ai tiens tant dans le coma. Mais voilà, je me réveille. Et je vous apporte des fleurs, des chocolats. Depuis le trou de cul de l'enfer, je réapprends à marcher. Je donne des noms aux choses. J'ai dit mon amour, mes mensonges, mon espoir, mes fautes, ma passion, mon feu, ma colère, mon impatience, mon non et mon peut-être et mon oui inconditionnel. Oh oui, je veux. Être un nouveau surpris, je veux être étonné comme le premier des hommes. Je veux me retrouver debout avec tes yeux nouveaux au milieu des choses et ne plus rien reconnaître, pas à pas à travers les bois et les prairies et dire oui, c'est bon, plutôt pas mal, pas mal tout ça. Aussi loin que je peux, qu'à chaque chose c'est un cadeau. C'est juste l'emballage qui fait chier. Et on a beau à essayer, on arrive à peine à enlever ce joli papier. Autant je sais maintenant qu'il y a des gens dans ce monde qui le justifient, qui peuvent nous aider à vivre, qui aiment comme si c'était la chose la plus légère au monde. Je veux être comme eux. Je veux être comme eux. Oh oui, je veux. Oui, je veux. Je reste éveillé la nuit. Je rêve des plus belles mélodies qui flottent dans l'obscurité. Je flotte avec elles. Quelque chose en moi veut briller et aller vers le ciel. Puis une batterie commence à battre, pousse le beat derrière ma tête. Une basse colle à la grosse caisse, une guitare va de l'avant. Et quelque part dans le néant siffle un arsène céleste. Et tout se met en mouvement, toute la salle balance. Et j'attends des voix des anges, et tout le monde chante avec elle. Et chante la woman the darkness, baby. You're gonna be safe by rock and roll. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux.
Ce soir, dans Les Copains d'abord, David dans Voyage au bout des mots.
Louis XVI, né à Versailles, deviendra Louis Capet d'épée juste avant le passage de la lame. Il se passionne pour la serrurerie et le bondage. Il écrivit d'ailleurs « Voici les clés », le grand succès de Gérard Lenormand, qui mit un coup de fouet à la carrière du roi. Fétichiste également, il aime prendre son pied, raison pour laquelle on décide de le marier avec l'archiduchesse Marie-Antoinette d'Autriche. Alors, je vais me lancer.
Vas-y.
Dont les chaussettes étaient sèches et archi-sèches. Si vous croyez que c'est facile, vous, chroniqueur chez Agora. Le dauphin, mal noté sur Google à cause d'un physique ingrat, reçoit pourtant l'accord de l'impératrice. La cérémonie est diffusée en Mondovision et commentée par Léon Zitrone, qui avait ça dans les Viennes. Lui-même ayant été attaqué par un jet de perruque et aurait dit « Guy ! Guy, je ne suis pas blessé, mais sans mes lunettes, je n'y vois pas. » Désolé pour l'imitation.
Cette pauvre imitation.
Ah, très pauvre. Le roi, très gourmand, ne voulait faire qu'une bouchée à la reine. Toutefois, le mariage n'est pas consommé cette nuit-là, car la reine portait un bonnet frigide. La consommation aura lieu plus de 7 ans de réflexion et de galettes après le mariage, où il réussit enfin à tirer la reine dans un puissant don d'orgasme, car il ne pensait qu'à Necker. Cette fois-là, il lâcha son frein. Ceci est resté dans les annales. Ils eurent 4 enfants. Mais on soupçonna le médecin de famille.
Comment détruire l'histoire de France ?
Voici l'histoire de France pour les nuls, très nuls. Mais on soupçonna le médecin de famille d'en être le père, car quand on voit l'éducation qu'ils ont reçue, on peut dire que les 4 filles du docteur marchent droit. Il devient roi quand son grand-père meurt, et selon la célèbre pub, il y a du Turgot dans l'air. Car l'économie du royaume de France était entrée en récession grâce à Bruno Le Maire. Ainsi, il diminue les frais de bouche et personne ne pipe mot. On le qualifie alors de roi de France et avare. Le peuple souffre de disette. Les prix de l'électricité flambent et les boulangeries sont pillées. Mais le roi veut faire marcher les Français à la baguette. Ces derniers réclament également du vin, ce à quoi le roi répond « Pas besoin de Beaujolais quand on a des Bourbons. »
C'était le petit instant chanson.
C'est ça, le fameux
karaoké.
C'est ça.
Je pense qu'il cherche un producteur pour son prochain album.
Mais on l'a reconnu.
Débute alors l'affaire du collier de la reine. Le cardinal de Rohan, fils des âges farouches, est débauché comme l'abbé Pierre en guépière, est amoureux de la reine qui ne l'apprécie pas. C'est en voulant revenir dans les graisses de la reine qu'il va être escroqué dans cette affaire. Une nuit, il attend une femme sur le mont de Vénus. Il pense qu'il s'agit de la reine, mais en fait, il s'est fait mettre bien profond. Par qui ? Par Madame de la Motte. Oui, oui, ceci est vrai. Ceci a été compté dans l'excellent film La Folie des Grandeurs. Quand le bijoutier vient récupérer ses sous-sous, il comprend vite qu'il s'est fait avoir par un brouteur situé en Côte d'Ivoire. Immédiatement, les intellectuels dont Marat bout. Camille Desmoulins va trop vite et Mirabeau est sur le pont afin d'écrire ses nombreuses scènes et pamphlets. Les imposés aux tiers provisionnels se constituent en gilets jaunes. Ils veulent se réunir et découvrent que la salle des menus plaisirs dans la maison est close. Du coup, les représentants se rassemblent et commencent à préparer un barbecue avec des sarments et du jus de pomme pour contrer le triste cidre. Ils doivent écrire une nouvelle constitution. Mais le secrétaire communiste venu du Nord se dispute avec un député socialiste venu de Marseille, lui disant « Mieux vaut être rouge et de Lille que rose et de Provence ».
Oh, joli.
Bravo, merci. Le 14 juillet, le peuple parisien s'empare de la Bastille. On veut réveiller le roi. Il est thermidor, monseigneur, il est messie d'or de ce réveillon. Mais ce dernier ne se réveille pas. Victime d'une immense gueule de bois, car il avait bu de la vodka. C'est ce qu'on appelle un roi absolute. La nuit du 4 août, les députés votent la fin des privilèges. La publicité pour Weight Watchers est abolie, l'ancien régime s'écroule. Cependant, suite à une pub jugée sexiste, le mécontentement gagne à nouveau les rues. Il y a environ 700 000 femmes, je vais faire insulter, mi-pute, mi-soumise, wow, marchèrent sur Versailles en vue d'éclairer sa lanterne au roi, qui les reçoit sans culotte.
Sans filtre, ce sont notre David. Hein.
Elles n'étaient pas des lumières et veulent qu'il habite Paris. Et vous savez pourquoi ?
Non.
Eh bien, parce que c'est pas Versailles ici. En plein désarroi, il fuit avec sa famille dans une berline électrique. Mais en se faisant passer pour un bobo écolo, mais tombe en panne rapidement après le départ, grâce à la splendide autonomie de son véhicule. Et reconnu par un fonctionnaire, il est arrêté la nuit de Varennes. Le peuple criera alors « Vive le douanier Rousseau !»
Bien sûr, David, bien sûr.
Le troisième extrait, c'est ça, l'album.
Ça fait plaisir.
Tu apprécies sa chronique uniquement quand tu n'as aucune notion d'histoire.
C'est pas vrai, faux.
Devant l'augmentation insensée du nombre de pistes cyclables dans Paris, des insurgés organisaient la rébellion dirigée par un type qui mélangeait les couleurs, un dantonien. À la Gironde, on était divisé car le roi commandait beaucoup de grands crus, mais à la montagne, on souhaitait le départ du roi qui avait interdit les remontées mécaniques. Pourtant, que la montagne est belle.
Quatrième extrait.
Après, j'arrête. Le roi est condamné. Il s'engueule avec la reine pour une futilité. Ce fut leur dernière prise de tête. Il aurait dit en prenant l'ascenseur pour l'échafaud, j'ai perdu la tête, j'ai perdu la tête. Qui aspirera à Dany Briantine, l'inventeur de la Gomina. La convention ordonne la levée obligatoire d'hommes pour servir dans l'armée française. De violentes érections surgissent, surtout dans l'Oued. C'est le début de l'insurrection vendéenne. Les chiens pratiquent l'onanisme. Très vite, l'anarchie s'installe. Les Black Blocs provoquèrent la grande peur. Et la fureur des forces de police se déchaîna contre les passionnés de jeu, les jacadis. Le club des Cordiers est jugé flic et proche des classes populaires. Le club des Jacobins entraîne la chute de Robespierre et Jean-Marc Thibault. Pas de bague à l'âme, il passera lui aussi sous la lame du bourreau. Alors, quel est l'héritage le plus important des révolutions ? Mais il s'agit du culte de l'être suprême, aussi appelé Thierry, par ses loyaux vassaux chroniqueurs.
Bravo, merci, David. Mon ami, bravo.
Je t'en prie, j'espère que tu feras une petite pièce.
Oui, mais je te fais un petit chèque juste après, il n'y a pas merci. De problème. Alors, on va se quitter quelques instants avec le groupe Texas, avec leur titre mythique, Say What You Want, et on se retrouve juste après avec les Insolites.
Ce soir. Vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
And when I get that feeling, I can no longer slide.
Écoutez les copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
Vous êtes toujours dans l'émission Les copains d'abord sur Radio Agora Côte d'Azur.
Vive les churros.
Et là, on vous a préparé un petit florilège d'insolites. Et c'est du coup Carole qui va commencer.
Exactement.
Florilège, expression du 18e siècle.
Tout à fait. Bah, moi, c'est une histoire un peu sympa au début. C'est une histoire d'amour. Jennifer, Marc, ils s'aiment. Ils souhaitent se marier. Ils préparent pendant des mois et des mois leur mariage.
Ouais.
Arrive le jour J. Alors, ça se passe super bien. Villa luxueuse, piscine, tout semble se dérouler super bien.
Mariage parfait.
Ouais, mariage parfait, ouais, ça commence toujours comme ça, de toute façon.
Mm. Et on sent la fille qui a divorcé, quand même.
C'est ça. Moi aussi, ça commençait bien. Et donc, voilà, pour nos mariés, bah, tout se passe bien, mais il y a eu un incident inattendu qui est venu bouleverser cette fête. Et à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être?
Bah, son ex, une ex. Hein.
Le marié a enlevé son masque et finalement, c'était le beau-père.
Ah. Non,
c'était anciennement un homme ou femme et il est devenu homme-femme.
Ben non, c'est qu'en fait notre beau Marc, hein, parce qu'il était quand même très bel homme, il entretenait une liaison secrète avec la sœurette de sa promise. Ça c'est moche.
Marc t'as déconné.
Marc, franchement c'est pas cool. Alors bon, évidemment il a profité d'un moment d'absence, j'allais dire d'abstinence, mais pas du tout, de la mariée pour rejoindre sa maîtresse dans la piscine, histoire de se mettre à l'écart des regards indiscrets.
À l'écart de 500 personnes.
Malheureusement pour eux, leur aventure a pris une tournure un petit peu embarrassante. Et oui, ils se sont retrouvés coincés l'un dans l'autre.
Ah, ça fait ventouse.
C'est ça, c'est un phénomène médical rare, mais très réel. Bon, moi, je dirais plutôt que c'est plutôt un grand moment de solitude, hein, à mon sens. Bon, ça s'est rapidement dégradé.
C'est sûr que j'imagine Marc qui dit après à sa vraie femme, c'est pas ce que tu crois, chérie. C'est pas ce que tu crois.
C'est exactement ça, mais c'est presque ça. Parce que du coup, forcément, la situation se dégrade, hein, et il y a des invités qui étaient dehors, qui se promènent. Ils les voient en galère totale. Ils viennent à l'aide, ils appellent les pompiers qui viennent rapidement pour les sortir l'un de l'autre. Hein, ouais. Position fâcheuse, on n'a pas eu le temps de savoir quelle était la position. Alors, j'aimerais bien savoir.
Au final, est-ce que c'est vraiment intéressant?
Parce que, quelque part, tu vois, pas avoir une image.
Là, elle est là, peu importe la position, Carole.
Et là, une petite pensée émue à notre pauvre et triste Jennifer, hein, vêtue de blanc avec son bouquet à la main.
Hein, c'est horrible.
Dévastée totalement, qui apprend du coup la vérité devant les invités.
Et du coup, elle a donné directement le bouquet à sa sœur.
C'est ça, coup de boule. Donc, je ne vous explique pas l'humiliation. Alors, l'incident a non seulement mis fin au mariage, évidemment.
Ah bon ?
Il est aussi devenu un sujet de commérage local pendant des années.
L'esprit étriqué de Jennifer, s'il vous plaît.
Ouais, exactement. Donc, moi, j'ai quand même un message pour Marc, parce que je pense qu'il nous écoute. Hein. Donc, Marc, si tu es célibataire et que tu souhaites me contacter, Marc, j'ai changé de numéro. Hein. Voilà. Donc, je vais conclure par une petite moralité, je trouve très mignonne. À trop vouloir tremper le biscuit, on finit toujours par se faire piéger dans le pot.
Chapeau, tiramisu.
Bravo. Exactement. Allez, j'enchaîne. Ok, vous
c'est
êtes prêts?
Ah bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix.
Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez la chanson « C'est un beau roman, c'est une belle histoire », c'est une romance d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Et bien, c'est l'histoire de deux astronautes, Butch Wilmore et Sonny Williams, qui devaient rester 8 jours en orbite sur l'ISS. Hein. Petit problème technique, ils vont y rester finalement 7 mois. Donc c'est un peu comme partir un week-end en amoureux et se retrouver coincé avec ta belle-mère dans un camping sans wifi au Bangladesh pendant toute la saison des pluies. C'est un petit peu longué l'histoire. Donc du coup, le retour est prévu pour eux sur Terre en février, donc avec SpaceX et non avec Boeing. Jean-Paul Sartre avait dit un jour, l'enfer, c'est les autres. Ben, on est carrément d'accord, surtout quand tu es à 400 km d'altitude, on est d'accord. Vous imaginez devoir partager un espace réduit de quelques mètres carrés avec la même personne pendant 7 mois. Alors les premiers jours, ça va. Hein. Ouais. Ah tiens, tu ronfles un peu la nuit, mais ça va, c'est mignon. Au bout de 3 mois, c'est plutôt, si tu ronfles encore une fois, tu les vois tes petites affaires, et ben je les fous dehors et tu iras les chercher entre Saturne et Jupiter. Sans compter les problèmes de couple hein, qui peuvent découler de ce genre de désagrément. Ouais. T'imagines, toi, expliquer à ta femme qu'au lieu de revenir mardi prochain, tu reviens en février. Hein. Ça pourrait donner ça. Écoute chérie, je sais c'est un petit peu gros mon histoire, non mais c'est pas une excuse bidon, je te jure, je suis contraint, je dis bien contraint de rester en orbite avec ce... Non, ne raccroche pas, on rentre en février. Comment je te prends pour une conne? Bon bref, si un jour on vous propose un petit séjour grand public dans l'espace, méfiez-vous, le vrai problème avec les voyages spatiaux, c'est pas de partir, c'est de revenir.
Ouais, là-dessus.
Léa, t'as un petit truc pour nous?
Alors ben moi j'ai un gros truc, hein, visiblement.
Tu veux des lunettes?
Ça ne nous regarde pas, on m'avait averti que t'étais une femme, a priori, on s'est trompé.
Bon, moi comme je vous le disais tout à l'heure, on va partir en Belgique, la Belgique que l'on surnomme la douce folie de l'Europe, hein, vous le savez. Je vous ai trouvé d'ailleurs plusieurs insolites de nos voisins belges, nos amis, nos frères même. Un peuple incroyable qui mélange frites et philosophie comme personne. Alors vous le savez, en Belgique, on ne plaisante pas avec les frites, c'est sacré à tel point que dans la prison de Lantin, un détenu a refusé de sortir pour aller à son procès. Parce qu'à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé?
Il leur a donné des frites au repas.
Oui, bon, toi, t'as pas lu ma feuille, non?
Non.
Bah non. Donc, effectivement, c'est ça, Carole.
Je suis juste intelligente.
Oui, et ben voilà.
Donc, il n'a pas pu s'y rendre parce que c'est les jours de frites.
C'était
les jours
de frites à la cantine. Mercredi, c'est jour béni. Tout le monde le sait. Les frites sont là et l'ambiance est aussi chaude que l'huile de la friteuse. Oh. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Restons dans le domaine de la justice. Notre chère ministre de l'écologie belge, Marie-Martine, je ne prononcerai pas son nom, je n'y arrive pas. Elle a trouvé un moyen assez particulier d'incarner sa campagne sur les dangers de l'alcool. Elle a été arrêtée deux fois en 10 mois pour conduite en état d'ivresse. Alors oui, c'est sûr, elle voulait sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'alcool.
Elle est belle, la Belgique.
Mais à ce stade, elle pourrait presque animer les cours de prévention elle-même depuis une cellule avec des frites.
Des frites sur
40 degrés, voilà. C'est bien. Alors si on parle d'ivresse, on ne peut pas passer à côté du curé de Seille, ce bon monsieur qui, un soir de fête nationale, a décidé de prouver à son village qu'il en avait sous la soutane, ni une, ni deux.
Il a soulevé la soutane.
C'est ça, voilà. Quelques pintes plus tard, parce qu'il a quand même un petit peu, il a un peu abusé. Le voilà qui se dévoile au grand jour. Alors, ce n'était peut-être pas ce genre de révélation que son village attendait, hein, mais au moins, il a prouvé qu'il pouvait remettre l'église au milieu du village. La Belgique, c'est aussi le pays des fraternités improbables. Saviez-vous qu'il existe une confrérie nationale des chauves?
Absolument pas.
Vous ne le saviez pas, non. Moi non plus. Oui, monsieur les chauves qui nous écoutent, si vous avez, vous avez un refuge en Belgique, et pas des moindres, cette association a fêté ses 50 ans il y a quelques années. Et il faut dire que la Belgique sait honorer toutes les formes de diversité, même capillaire. Donc, amis chauves français, hein, puisque vous êtes 8,5 millions.
Non, il t'en reste encore.
Personnes.
David, un petit voyage en Belgique, de
Brésil, peut-être. Non, il en reste encore. Là, on parle chauve-chauve. Donc, il y a 8,5 millions de personnes qui ont des problèmes de calvitie. Donc, unissez-vous autour du bulbe, car garde l'espoir.
Calvitie aussi.
Exactement. Direction Briey-Hélène.
En fait, tu vous fais le pourquoi pas le Léa, là.
Non.
Non, je t'ai taquine.
Parce que je cause pas. Mais c'est un peu long, mais vous allez voir, c'est sympa à la fin. Donc, on part dans un autre village, on va arrêter de les nommer, ça va prendre trop de temps. Ou encore un pasteur, en bon samaritain, a décidé d'ouvrir un bar dans son église. Le seul troquet du village ayant fermé, il s'est dit qu'il fallait bien que ses paroissiens trouvent un endroit pour trinquer. Résultat, le dimanche après la messe, tout le monde se retrouve autour d'une bonne bière sous la bénédiction divine, bien entendu. Pour tous ceux qui n'aiment pas les Belges, et on s'est bientôt terminé, comme Thierry par exemple,
Tous
ceux qui les aiment comme David, je rigole bien sûr.
Je vais avoir des messages sur les réseaux sociaux, je suis belge, comment ça se fait?
Fatwa pour de bon.
Ouais, une fatwa belge sur moi.
Non, mais c'est des petites infos sympas à connaître. Sachez qu'en Belgique, il n'y a pas de péage sur les autoroutes. Au ciné, ils ont des entractes pour les films de plus de 2 heures. Et les maisons closes sont légales et encadrées. Et oui, vous avez bien entendu. de quoi lancer des débats passionnés en famille ou pas. Et pour terminer, car il faut bien que ça s'arrête un moment, je vous le promets.
Il faut que ça s'arrête un jour.
Juste pour les nocturnes.
Pour arrêter l'hémorragie.
Je crois que j'ai trop bossé la chronique. Nos amis belges nous surprennent toujours. Ils ont ce petit grain de folie qui nous fait tant rire, mais aussi réfléchir. Comme disait Jacques Brel, décidément il est partout dans mes chroniques, les Belges sont les seuls à pouvoir encore aimer la France sans retenue. Et nous, on les aime aussi pour leurs frites, leurs bières, leurs histoires improbables et surtout pour leur sens de l'humour et leur générosité. Et le bar à l'église.
Mais quel marathon.
Voilà, wow. c'était rapide, mais c'était long.
David, t'as une petite.
Oui, j'ai une petite.
Enfin, une petite chronique.
Moi, je vais parler de la guerre qui peut parfois prendre des chemins détournés, même loin du théâtre d'opération en lui-même. Le site Update nous indique qu'un Ukrainien de 38 ans qui était parti se reposer au Pérou, en Amazonie.
Calme-toi, David.
Oui, il pensait trouver la paz, tu vois, dans un centre de thérapie si bien nommé pour le corps et l'esprit. Ouais. A réussi un coup de maître pour son pays. Après avoir consommé quelques substances endémiques de la pharmacopée locale, cette personne qui abuse des psychotropes comme sous Hélène du whisky a décidé de venger l'attaque russe sur le grenier à blé de l'Europe. Amateur de rap français, et surtout d'Ayam, ce soldat d'opérette Ukraine Digun. Le champignon ne suffisant pas à sa débauche, il décida de profiter de l'happy hour pour s'envoyer quelques breuvages peu orthodoxes, dont les Indiens ont le secret. Enfin, surtout un. L'ayahuasca, qui est une boisson hallucinogène puissante. Hélas, aussi bon que ces boissons puissent être, notre slave, plus habitué à la vodka qu'au pastis indien, a eu une réaction, disons, disproportionnée. Tel Didi, fils du dragon dans le lotus bleu qui voulait couper la tête de Tintin, afin qu'il puisse trouver la voie, notre Ivan, puisque c'est son prénom, fils du drogué, a décidé de, je cite, sauver l'âme de son ami qu'il pensait possédé par les forces du mal. Le Quechua d'opérette décida alors d'aller voir son ami russe de 44 ans afin de lui conter, sinon fleurette, plutôt pleurote. On ne sait pas si la liaison fut consommée ou si une trêve fut célébrée par les deux méditants, mais le lendemain, on retrouva hébété Ivan, telle une photo novella, en sang et dans un état second. Et un peu plus tard, le corps découpé en morceaux de la pauvre russe, transformé en tatar de Crimée, recette bien connue près de la mer Noire. On apprend depuis.
En fait, il nous fait une deuxième fois sa chronique.
On est dans le même thème. Ça va, je me sens moins seul. Merci.
On apprend depuis que le centre est fermé, bien entendu, mais que Doc Gynéco envisage d'étudier cette plante, car s'il en a marre de se droguer aux aspirines, il veut atteindre le nirvana. Vous avez dit que c'est musical ce soir.
Ah oui, oui. Bah, bravo, David. Bravo.
Carole, c'est à toi maintenant.
Bah, allez, moi, je vais en faire une petite dernière pour la fête.
Allez, vas-y. Pour boucler la boucle.
Pour boucler la boucle. Alors là, c'est une histoire incroyable avec Jean-Louis. Alors, bon, ce garçon, il est passionné. Hein. Il travaille depuis des années dans une scierie et il est super fier de son expertise.
Seul problème, il s'appelle Jean-Louis. Non, je déconne.
Ouais, aussi, c'est un problème. Et arrive un moment, un faux pas, où tout change. Alors qu'il coupe une planche de bois, il glisse.
Aïe,
aïe, aïe. Aïe. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est arrivé à ce petit JL?
On sait. Hein.
Alors, il
s'est coupé le squab.
C'est ça. Eh bien, dans la panique, une partie très intime, donc tout à fait ça, de son corps se retrouve dangereusement près de la scie. La douleur immédiate, violente, du sang partout, c'est la fête du slip.
Nous, les garçons, on imagine bien. Vous non, mais
non,
nous,
non,
c'est une chronique
envie,
vortex. Hein.
Il est transporté d'urgence à l'hôpital et après un examen rapide, le médecin tente de le rassurer. Il lui dit, Jean-Louis, écoute, rien de grave, tu vas t'en sortir.
Tu peux commencer ta transformation.
Bon, alors c'est super hein, jusque-là. Donc on est content pour lui, hein, c'est super. Bon, moi j'ai quand même une question essentielle, c'est quand même de savoir ce qu'il en est vraiment de sa virilité. Moi ça m'intéresse en fait de savoir ce qui est devenu Jean-Louis.
Bah oui, si.
Bon, du coup il a été interviewé
par... On salue le popole de Jean-Louis.
Avec le bout coupé. Donc dans un journal local. Et en fait il s'est confié, oui. Il a été donc profondément choqué, hein, car il dit que la valeur de l'homme a son sens, et c'est ce qu'il a entre les jambes et qu'il a eu très très peur. Donc en fait, on est content pour lui encore une fois, tout va bien pour Jean-Louis. Bref, un homme n'est peut-être pas plus qu'un simple outil, mais comme tous les outils, ça finit toujours par sucer.
Quelle chute. On s'y attendait pas à ça là. Voilà. Je sais pas s'il faut applaudir ou pas, mais...
Quoi. Ce soir, on fait un sans faute.
Voilà. Ça, ouais. Il y aura certainement du coupage et du montage.
Ah, ah, déjà, Jean-Louis, un petit peu. Hein.
Merci pour vos insolites. Bref, vous avez bien travaillé. On va se quitter quelques instants en musique avec le groupe Tears for Fears et le titre Everybody Wants to Rule the World. Et juste après, on retrouve mon instinct décalé.
Ouais, youpi.
À tout de suite.
Ce soir. Vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur. Les copains d'abord. Thierry dans l'instant décalé.
Mon cher Thierry.
Oui, je suis là.
Pour le début de cette chronique que je devine génialissime, tu souhaitais...
Attends, je pense que c'est pas moi qui t'écris, Pierre Lance.
Mais surtout, je devine qu'elle est génialissime et qu'elle est surtout très longue. En tant qu'observateur de la vie politique française, tu voulais revenir sur notre Premier ministre Michel Barnier et son gouvernement.
Effectivement, Léa, un mois après la rentrée des classes du nouveau gouvernement, aucune connerie d'envergure n'est à ce jour à déclarer. Bon, enfin, on va pas s'inquiéter parce que ça finira de toute façon par arriver, hein, on est d'accord ?
C'est sûr.
Selon un sondage et depuis sa nomination, Michel Barnier est toujours le politique préféré des Français, ce qui est un petit peu normal quand on n'a pas encore fait grand-chose, hein, on est d'accord ? En fait, c'est comme quand on va voir les nouveau-nés à la maternité. Hein, on leur fait plein de compliments, alors qu'en deux ou trois jours de vie, le bilan, il n'est pas dingue, hein, il n'est pas fou. Un bébé, ça ne fait pas grand-chose de ses journées, ça dort, ça mange, ça souille ses liquettes et ça ne fait pas plus que ça, et pourtant, on les aime. Hein, jusqu'à ce qu'ils grandissent, et là, on est plus du tout sur le même champ lexical. Hein, c'est plutôt, hey, chérie, je crois bien que tu n'as pas pondu un prix Nobel. Hein. Et ben, c'est pareil pour Michel Barnier. Quand tu deviens Premier ministre à 73 ans, c'est finalement comme une nouvelle naissance, et l'Élysée, c'est un petit peu ta maternité. Le petit Michel va grandir à Matignon, on va l'aimer, le temps va passer, et ce qui est fou, c'est qu'on sait déjà qu'on finira par lui faire caca dessus, hein, comme on a fait avec tous les autres premiers ministres, et vu son grand âge, peut-être bien qu'il n'aura pas besoin de nous pour tout ça.
Thierry, tu l'as dit, la Barniermania a donc déferlé sur notre beau pays, et personne ne l'avait vu venir, à commencer par lui-même.
Bah tout à fait Léa, dans le classement des personnalités préférées des Français, Michel s'est rapidement classé entre Jean-Jacques Goldman et Omar Sy, hein, c'est vous dire le succès fulgurant de Michel. Mais quand notre Premier ministre, enfin ou notre Premier sinistre a annoncé des hausses d'impôts pour 0,3% des foyers français les plus fortunés, les plus riches ont coincé Michel à la 723e place des personnalités préférées des Français, entre Gérard Depardieu et l'abbé Pierre. Je vous l'avais bien dit, hein, qu'on finirait de toute façon par lui faire caca dessus. Donc, on le sait tous, notre Premier ministre a galéré pour convaincre de potentiels ministrables célèbres de partir avec lui. On peut évidemment les comprendre. Et c'est pour ça que les trois quarts qui ont été choisis, en fait, on ne les connaissait pas. Hein. D'ailleurs, eux-mêmes ne se connaissaient pas. C'est vous dire. Parce que hausse d'impôts, pas de majorité pour gouverner, 3000 milliards de dettes. Là, tu sais que si tu acceptes un poste au gouvernement, tu vas vite devenir la petite jardinière de fleurs posée sur le trottoir et sur laquelle le monde câlin va uriner. C'est très pipi caca aujourd'hui. Hein. Et puis pour un politique, quand tu décides de partir avec Michel Barnier, c'est un peu comme si tu décidais de faire le tour du monde en Renault 4L. Hein. Il y a quand même plus sexy et il y a surtout plus confort. Au final, il y a quand même 38 kamikazes, hein, qui sont partis avec lui. Et si vous voulez mon avis, il n'y a pas des kilomètres pour qu'ils se fassent tous recruter par l'État islamique. Hein. Quand les mecs partent dans ces conditions-là, tu sais que tu vas pouvoir leur demander à peu près tout et n'importe quoi. En tout cas, notre vieux beau, c'est la force tranquille. Et ça rassure quand même les Français. Hein, nerveusement, il faut dire qu'on est plus proche d'un tracé plat d'encéphalogramme que de Nicolas Sarkozy. Hein.
Sans transition, tu voulais nous parler d'une idylle insolite qui a défrayé la chronique et qui me fait dire que les voix du Seigneur ne sont pas si impénétrables que ça. Tout a commencé par un mariage. Mais le mariage, qu'est-ce que c'est, Thierry ?
Eh ben, le mariage, c'est l'éternité dans un instant, c'est l'infini dans une étreinte, une alchimie parfaite où le jeu devient nous pour l'éternité. Bon allez, j'arrête de faire le con, c'est pas moi du tout ça. Rappel des faits, il y a 3 mois, le père Gerson célèbre le mariage d'un couple de tourtereaux à Brignoles dans le Var, juste à côté. Jusque-là, rien de foufou. Mais c'était sans compter la faiblesse de l'homme de Dieu et de la mariée. Hein, la situation va patiner comme le prêtre qui va rajouter la langue pour un détartrage émail diamant. Et quand on sait que Brignoles est à seulement 1 heure de route de la commune de Cogolin, dont la spécialité est la pipe, en bois de bruyère, hein, je précise, est-ce que vous la voyez arriver la patate ou pas? Parce que si notre histoire initiale est plutôt chou, c'est bien la saucisse qui va semer le trouble. Patate, chou, saucisse, de quoi pédaler dans la choucroute. Alors loin de moi l'idée de me réjouir de cet adultère entre un prêtre et une jeune mariée, et en même temps, force est de constater que cette choucroute me permet quand même de vous proposer ce billet d'humeur de grande qualité.
On peut le dire.
Alors derrière, le prêtre s'est dénoncé, il a remis sa lettre de démission avec son bleu de travail, composé d'une paire de sandales, d'une soutane et d'un chapelet. Alors peut-on considérer que faute avouée à demi pardonnée? C'est toute la question. En tout cas, les paroissiens ne comprennent pas. Le mari s'est dit choqué à vie, on le comprend. Vous connaissez tous mon penchant pour le travail d'investigation. J'aime creuser en profondeur les sujets que je traite. Eh ben, je pense qu'il est là le problème, en fait. Le prêtre a lui aussi voulu creuser l'insondable. Il est passé d'homme d'église à spéléologue. Et quand on y réfléchit, réfléchis bien, le pépère, à force de marier des tourtereaux, ça lui a donné des idées. C'est un peu comme lorsqu'on fait mijoter un bon petit plat, la viande cuit à feu doux dans la sauce, et ben à un moment donné, tu peux pas t'empêcher d'y glisser ta louche pour goûter.
C'est fin, c'est très fin. C'est aujourd'hui la journée internationale de la probité. Oui, oui, probité, j'ai eu un doute. Qui est, je le rappelle, une qualité morale de droiture, oui, de bonne foi et d'honnêteté qui se manifeste par l'observation rigoureuse des règles morales.
Et eh bien du coup, on va parler de l'abbé Pierre, puisque l'homme d'église est à la probité ce que Mimi Mathy est au basket.
Ah ouais,
de nombreux témoignages continuent donc de se succéder chaque semaine contre le facétieux Pierre qui montre qu'il a poussé à l'excès son combat contre le froid depuis le terrible hiver 54. Voilà ce qui se passe quand on prend sa mission de vie un peu trop à cœur. Il a voulu réchauffer d'un peu trop près celle qui ne lui avait pourtant rien demandé. L'abbé Pierre avait fait de la pauvreté son cheval de bataille, on s'en souvient tous. Et je pense qu'il a voulu très rapidement faire un retour sur investissement. Tu ne feras plus la manche, par contre, tu n'oublieras pas de me tenir le manche. Voilà, pour l'abbé Pierre, c'était un petit peu du win-win, hein, c'était du gagnant-gagnant. À ce jour, il est bon de rappeler que sœur Emmanuelle n'est toujours pas visée par une plainte pour agression sexuelle. Et c'est tant mieux. L'abbé Pierre conserve donc toujours une longueur d'avance sur le podium de l'inacceptable.
Oh là là.
Évidemment, une pensée pour toutes ses victimes.
Excuse-moi, on peut dire qu'il est passé de l'hiver 54 à l'été 69.
c'est absolument ça.
Et puis pour terminer cette chronique, une dernière petite info légère. Oui. Le célèbre militant écologiste Paul Watson, incarcéré au Groenland avant son éventuelle extradition au Japon, vient de recevoir un soutien de taille et ce soutien est français.
Absolument Léa, le défenseur des baleines a reçu le soutien de Francis Lalanne. Mais oui, vous ne rêvez pas. Décidément, le destin s'acharne contre ce militant. Rien ne lui aura été épargné, le pauvre. Notre troubadour qui s'emmerdait depuis son combat contre la vaccination obligatoire a décidé, oui, vous allez voir, de partir au Groenland pour soutenir Paul Watson. Alors moi, j'imagine la gueule des ours polaires quand ils vont voir le débarquer le Francis en cuissarde sur la banquise. Hein ? Souhaitons simplement au Groenland que Francis ne pousse pas trop souvent la chansonnette afin d'éviter l'accélération de la fonte glaciaire. L'instant décalé s'est terminé. Merci de m'avoir écouté. Et si on s'écoutait maintenant un petit Police?
Ah oui. Bien.
Allez,
oui,
c'est parti mon kiki. Ça reste dans, le, hein, dans
ouais,
le sujet
ouais,
avec Roxane. Et juste après, on se retrouve avec le Pourquoi pas de Léa. À tout de suite les amis.
Super.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
It's right, Roxanne.
ce soir. Vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
Vous êtes toujours sur Agora Côte d'Azur et il est l'heure maintenant de retrouver notre Léa avec son Pourquoi pas.
Et à l'approche de la Toussaint, c'est un moment pour réfléchir non seulement à nos proches disparus, mais aussi à la valeur de la vie. Ce soir, le terme du Pourquoi pas.
Ce soir, on a Platon qui nous fait une chronique.
Ça va être moins drôle. La mort, les cercueils et la Toussaint, comme je le disais tout à l'heure. Je vous propose donc de creuser non pas notre tombe, mais vos connaissances sur ce sujet. Ah ouais. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop sinistre. Pas de mort subite, pas de coup de fatal. Juste quelques petites questions à vous poser pour partager un peu de bonne humeur et surtout d'apprendre des choses fascinantes. Vous êtes prêts ?
C'est bon ?
On est prêts. Combien de cercueils sont vendus en France chaque année ? 100 000, 250 000, 550 000 ?
Allez, 250 000.
550. Ouais. Et c'est exact, Carole.
Waouh !
Environ 550 000 cercueils sont vendus en France.
Il y a eu le Covid
et tout, qui suit de près le nombre de décès qui tourne autour de 700 000 par an, quand même.
Ouais. Donc, c'est important. Donc, il y a des gens qui ne sont pas mis dans les cercueils.
C'est ça. Voilà, c'est ça, t'as tout compris.
À l'ancienne, à la flamme, dans le jardin, avec trois rondins de bois.
Feu de la Saint-Jean.
Ou alors, ils n'ont pas été retrouvés, mais ça, c'est encore une chose.
Ou alors ils sont allés dans le Gange, on les a jetés dans le Gange.
Quels sont les différents types de cercueils par leur forme ? Alors, première option, le parisien, le lyonnais, le tombeau, l'américain. Le parisien, le lyonnais, le gothique, le pyramidal. Ou alors, le parisien, l'anglais, le mytho et l'absent.
Le parisien,
le mytho, l'absent, moi je dirais.
Ah bah oui.
On n'a pas parlé de ta vie, Carole. Avec tout mon amour.
De même, pareillement.
Les garçons ?
Parisien.
Non, vous n'avez pas compris la question. En fait, dans chaque, il y a quatre réponses possibles.
Oui, le premier, quoi.
Donc, le parisien, le lyonnais, le tombeau et l'américain.
Oui, c'est ça.
C'est celui-là. Et effectivement, voilà. Vous voulez le détail de savoir comment on fait les différences Très simple. Le parisien à couvercle plat, c'est le modèle le moins cher. Le lyonnais, avec un couvercle en pente continue, c'est celui qui est le plus rare. Le tombeau traditionnel, avec un couvercle un peu surélevé, c'est le modèle le plus vendu. Et l'américain, un cercueil plus large et souvent utilisé aux États-Unis.
Tu touches une com.
Le lyonnais, excuse-moi. Il n'y a pas un bouchon dessus
Par contre, ce qui est rassurant, c'est qu'à chaque fois, il y a un couvercle. Et ça, c'est bien.
Ça, c'est mieux.
C'est comme les Tupperware.
Quelle partie du corps se décompose en premier ? Le cerveau, le foie, les poumons ?
Le foie.
Allez, sans hésiter.
En résumé, effectivement, les premières parties du corps à se décomposer sont les organes mous, comme le foie, le cerveau et les intestins. Et Thierry, tu peux le dire, c'est triste.
C'est drôlement triste.
Bon, alors, on va passer à quelque chose un peu plus. Quel organe peut encore fonctionner quelques minutes après la mort ? Le cerveau, le cœur, les oreilles.
Alors, les oreilles ne sont pas des organes.
Mais il y a des pièges aussi, peut-être, éventuellement.
Ah, d'accord.
Donc, effectivement, les oreilles ne sont pas des organes, mais j'ai une petite info là-dessus.
Du coup, le cerveau.
Le cerveau ?
Oui, je dirais le cœur. Ouais.
Le cœur. Le cœur jusqu'à quelques minutes, et dans certaines conditions, le cœur peut continuer effectivement à battre quelques minutes après l'arrêt de la respiration. Petite anecdote. Sur Louis, tu le disais, ce serait en fait l'un des derniers sens à disparaître après la mort.
C'est qui, Louis ?
Voilà. Carole nous confirme que c'est une blonde.
Bon, alors, la question suivante.
Y a-t-il un pilote dans l'avion ? J'ai envie de dire.
Non, mais pourquoi ferme-t-on la bouche et les orifices d'un mort ?
C'est une question d'esthétique, pour éviter
les gaz ou pour respecter les traditions ?
Pour éviter les flux.
Ouais. Exactement. Après la mort, des gaz se forment dans le corps, provoquant l'ouverture de la bouche et des orifices. Et pour des raisons d'hygiène et d'esthétique, ils sont donc fermés. Pourquoi la crémation ne se fait... Pourquoi la crémation ne se fait-elle pas la nuit ? Par respect des traditions religieuses, pour des raisons énergétiques ou parce que les crématoriums sont fermés la nuit, tout simplement.
Parce qu'ils sont fermés
la nuit.
Eh bien, ce sont les trois réponses. Les crématoriums ferment la nuit, effectivement, donc pour des raisons pratiques. Le fonctionnement des crématoriums peut générer des bruits et des odeurs et des fumées, bien que ceci soit bien maîtrisé. Il y a aussi une question d'économie d'énergie.
C'est comme la machine à laver chez toi.
C'est les heures creuses.
Des heures creuses et des heures pleines. Bon, Gérard, tu me le fais brûler là entre 8h et 9h.
Le truc, c'est s'il y a une fumée blanche, on sait qu'on a un pape, quoi.
Et la crémation pendant la journée est souvent perçue comme un moyen de rendre en fait hommage aux défunts dans un cadre plus traditionnel où la lumière du jour symbolise la vie et la transition.
C'est-à-dire la vie et la mort.
Quel est le chiffre d'affaires annuel des pompes funèbres en France ? 500 millions, 2,5 millions d'euros ou 5 milliards d'euros ?
Wow. Moi, je pense que j'aurais 1 milliard parce que les gens mettent les
soins. Ouais, moi, je pense qu'ils mettent le paquet.
Et bah, on est entre les deux, on est à 2,5 milliards d'euros.
Incroyable.
Voilà. Quel pays a le plus gros chiffre d'affaires dans l'industrie funéraire ?
États-Unis.
J'ai pas dit encore les réponses. Mais effectivement, on peut aller à l'essentiel. Allons à l'essentiel, mais je cite quand même la Chine. David, il passe pas par 4 chemins, lui, c'est direct. Hein. La Chine, les États-Unis, l'Inde, donc effectivement les États-Unis, chiffre d'affaires atteignant les 20 milliards de dollars. Et à savoir, très, très intéressant, les pays comme le Japon se distinguent par un taux d'incinération presque total. Okay. C'est-à-dire 99,7% de la population. Et principalement à cause...
De la religion.
Non, du manque de place.
Du manque de place.
Tout simplement. On termine avec juste des petits bonus, des choses que vous ne savez peut-être pas. Ouais. Certaines personnes choisissent des cercueils bio faits de champignons pour accélérer la décomposition du corps de manière plus naturelle.
Oui.
Ce qu'ils disent, ils sont enterrés parce que... Ouais. Moi j'aime bien chercher les champignons.
Moi, je m'arrête là. En France, 45% des défunts reçoivent des soins de thanatopraxie, oui, pour être présentés de manière esthétique à la famille. Mmh. Et ces soins sont réalisés par environ 1000 thanatopracteurs. D'accord. En France, il n'y en a que 1000. Et le métier tend justement à se féminiser. Donc si vous cherchez du travail, allez-y parce que c'est plutôt bien rémunéré. Je fais un petit placement. Je travaille aussi pour France Travail, comme tu peux constater.
Et puis si tu as envie de faire empailler tonton Gérard, tu le fous dans le salon. C'est impeccable, c'est de bon goût.
Tu lui fais lever le bras pour le porte-manteau comme ça. La petite info en plus, près de 4 millions de foyers français donc, ont acheté des végétaux à la Toussaint en 2023. Ce sera le cas, voire une hausse pour cette année. Et 45% de personnes organisent leurs obsèques à l'avance.
Eh oui.
Oui. Voilà. Donc vous savez.
On appelle ça mourir de son vivant.
Bon, d'ailleurs, voilà. J'ai signé mes dernières volontés, je vous les ferai passer tout à l'heure. D'accord, ok.
Qu'est-ce que
voilà.
C'est gay.
C'est gay, voilà, j'essayais de remettre
ça,
un petit
on
peu...
On va terminer l'émission avec une note d'optimisme.
Non, j'aimerais qu'on jette mes cendres dans grâce. Avec un beau message, comme vous savez, j'aime terminer mes chroniques avec des citations.
Jacques Brel, peut-être.
Non, je l'ai déjà utilisé. Donc maintenant que vous en savez un petit peu plus, je vous laisse donc avec une citation pleine de sagesse pour conclure, avec une pensée spéciale pour nos défunts. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout où je suis. Prenez soin de vous et surtout, profitez de chaque instant.
Oh, bravo, merci. Ouais.
Et bon, on a appris plein de choses.
Et oui. Voilà.
Merci beaucoup pour ce quiz en même temps.
Je vais me renseigner pour les champignons, moi. Ouais. Bah, demande à David, il a l'air de s'y connaître, ouais, visiblement.
Sauf que lui, c'est pas les mêmes champignons. Ouais. Allez, on va stopper là pour ce soir.
On va tous en forêt.
Puisqu'on arrive au terme de cette émission, on espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous avons eu plaisir à vous distraire. Il est temps que ça se termine ce soir.
On est épuisés.
Voilà, ils sont tous en roue libre. Je voudrais remercier la Dream Team qui m'accompagne. Carole, Léa et Davidou, mais également Nancy, notre réalisatrice qui est derrière les manettes de cette émission et qui est quelque part notre ange gardien, en fait.
Elle rigole bien. Hein.
Absolument.
Ouais, elle rigole de plus en plus.
On remercie bien évidemment, peut-être parce que vous êtes de plus en plus drôle.
Aussi, ouais. C'est la fête. Parce que visiblement, c'est pas toi.
Il n'y a pas de hasard. Hein. On remercie bien évidemment nos fidèles auditeurs, auditrices et tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. On vous souhaite une excellente fin de soirée. On vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour une nouvelle émission Les Copains d'abord. D'ici là, prenez bien soin de vous.
Et un bisou à Marc qui nous écoute ce soir.
C'était Les Copains d'abord, présentés par Thierry. Réalisé par Nancy Zottier pour Agora Côte d'Azur. Émission à retrouver en podcast sur agoracôtedazur.fr.